Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
Pour les personnes qui veulent investir en Algérie, qui sont intéressées par une vie ou une carrière ou entreprendre en Algérie, n'écoutez pas ce qu'on vous raconte. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on entend. Il y a beaucoup de langues pessimistes qui parle de l'impossibilité d'entreprendre en Algérie, c'est juste un prétexte pour justifier leur échec.
J'ai le plaisir d'accueillir Miloud Lamraoui, cofondateur de Luxi LED, qui est une usine de fabrication de produits d'éclairage LED basée à Alger. Après plus de 10 ans dans des postes confortables à Dubaï, Miloud décide que sa prochaine étape sera l'Algérie. Il nous raconte son parcours, son aventure entrepreneuriale, et casse les idées reçues sur ce qu'il est possible ou pas de faire dans ce pays à si grand potentiel.
Pour parler d'un cas concret, des franco-algériens qui ont ouvert une boulangerie de luxe avec des produits très bons, français, etc., qui valent 4-5 fois plus cher que les produits algériens, mais c'est justifié. Par contre, ils ont ouvert dans un quartier populaire. Donc non, ça ne marchera nulle part dans le monde, ça. Donc en fait, ensuite, ces gens-là, quand ils ferment, ils disent « bah non, l'Algérie, c'est pas possible, des Algériens, machin, etc. etc. » Bah non.
Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram Muslim Makers pour savoir en avance les personnes que je compte interviewer et proposer des questions si le sujet t'intéresse. Le lien est en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Miloud.
Wa alaikum salam wa rahmatullah, Abdelrahman.
Écoute, je suis très heureux de t'accueillir dans le podcast.
Merci.
Tu es donc en Algérie actuellement, ton entreprise est en Algérie.
Exactement, en Algérie. Ouais, c'est ça.
Miloud, pour commencer, je te propose de te présenter assez juste rapidement, juste pour nous dire qui tu es.
D'accord. Bon, ben, Miloud, en arabe, Al-Amraoui, en français, Lamraoui. Je suis franco-algérien, donc né en France de parents algériens qui sont originaires de l'est du pays, dans la zone Chaoui, de Oum El Bourfi, donc une zone berbère. Écoute, j'ai grandi en France, je suis né en France, j'ai grandi en France. Je suis de formation ingénieur en électronique, télécommunication, un peu tout ce qui est technologie du numérique, avec un cursus standard d'ingénieur, c'est-à-dire un bac, classe prépa, école d'ingénieur, etc. J'ai pas mal travaillé à l'étranger. En fait, j'ai pas beaucoup travaillé en France après avoir été diplômé. J'ai une grosse expérience dans le Moyen-Orient, Égypte, pays du Golfe. Et là, je suis installé depuis maintenant près de 4 ans, à Alger, où j'ai monté une usine de fabrication de produits d'éclairage LED qui s'appelle Luxi LED, L-U-X-Y, espace L-E-D, et qui emploie aujourd'hui un peu plus d'une soixantaine de personnes en Algérie. Et donc, je vis à Alger avec ma famille qui est composée de mon épouse et de 3 enfants, voilà, nés à l'étranger, aux Émirats.
Wow, mashallah. Donc un long parcours, beaucoup de kilomètres parcourus pour venir en Algérie. Tu as fait quoi comme type d'études? C'était quoi ton cursus?
Mon cursus, c'était, alors j'ai eu un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire aux grandes écoles, donc avec une spécialité en mathématiques, ce qu'on appelait avant maths sup, maths spé. Et ensuite, j'ai passé des concours pour entrer dans les écoles d'ingénieurs, et j'ai choisi une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ISEP, c'est l'Institut supérieur d'électronique de Paris, qui est dans le 6e arrondissement de Paris. Et puis 3 ans après, on sort avec un diplôme d'ingénieur un peu généraliste, c'est-à-dire qui touche à l'électronique, les télécoms, les réseaux et d'autres disciplines, l'informatique, etc. On sort avec un diplôme généraliste dans le domaine des nouvelles technologies. Et puis donc après, par définition de l'ingénieur, après on s'adapte aux différents domaines. Moi ensuite, j'ai bifurqué un peu sur le domaine de l'énergie petit à petit au fur et à mesure de ma carrière.
Est-ce que tu avais un objectif, un métier précis, un secteur que tu visais pendant tes études?
Non, vraiment pas du tout. Voilà, en fait, c'est venu petit à petit. J'aimais bien les maths, donc j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, j'aimais toujours les maths, donc j'ai choisi d'aller en prépa pour en faire pas mal. Et puis, c'est une autre dimension scientifique, et c'est là que j'ai découvert ces matières-là, donc mathématiques plutôt, et puis un peu de physique. Et ensuite, bah, je voulais une école sur Paris. Et puis, en fait, j'aurais pu faire différents trucs, hein. J'ai postulé, enfin, j'ai passé des concours pour entrer dans des écoles de chimie, des écoles de statistiques, etc. Et puis finalement, ça s'est orienté vers ce domaine-là. C'était une époque où il y avait on était encore dans le boom des télécommunications, de l'informatique, etc. Et
OK.
ça m'intéressait un peu, quoi. Donc, je me suis dit, bon, ben, on va se lancer là-dessus. Ça reste généraliste. Donc, après, on peut changer de secteur. La preuve, maintenant, je suis plus dans le domaine de l'énergie, même s'il y a une grosse part d'électronique.
D'accord. OK. Donc tu as commencé ta carrière en France après ça?
Ouais. Donc, j'ai travaillé 6 mois dans l'aéronautique, en France. Bon, c'était la partie un peu télécommunication de l'aéronautique. Et après, bah, en fait, moi, je savais, même quand j'étais au lycée, que j'allais partir de France après avoir fait mes études parce que le monde est grand, en fait. Et j'étais pas très, je me sentais pas très bien en France, au fait, pour différentes raisons, hein, climat, enfin, le climat, quoi, la pluie, le mauvais temps, le
On était
froid,
en quelle
etc.
année à ce
On
moment-là?
était en alors comment alors moi, j'étais diplômé en
Début 2000?
2004.
Ouais.
Ouais, j'étais diplômé en 2004, donc c'est une décision qui tournait dans ma tête dans les années fin des années 90. Donc c'était en 98, 99, et voilà, quoi. Et je me sentais pas à l'aise parce que je me suis toujours senti profondément algérien, malgré le fait d'être aussi français, au fait, de me sentir en partie français, puisque c'est ma culture dominante en réalité, que ce soit au niveau du langage, au niveau de l'attitude, etc. On aura beau aller n'importe où dans le monde, même en Algérie, les gens me voient au niveau du comportement comme étant un Français, quoi. À partir du moment où je commence à parler français, je suis un Français dans tout. Et donc voilà, donc je savais que j'allais plus ou moins partir. Et puis dès que sur ma dernière année d'études, je me suis mis à chercher, en fait, des postes à l'étranger.
Ouais.
J'en ai trouvé un juste après être diplômé, donc avec les histoires de préavis, etc. J'avais un emploi juste avant, j'avais trouvé un emploi dans une société qui s'appelle Snecma Moteur, qui est dans l'aéronautique. Et puis au bout de 6 mois, bah, j'ai démissionné pour partir en Égypte, où j'avais trouvé un emploi auprès du ministère des Affaires étrangères français, projet de déploiement de réseau entre les ambassades du Moyen-Orient, etc. Donc, j'ai vécu 3 ans en Égypte après ça.
Tu partais là-bas pour pas pour t'installer sur le long terme, c'était pour avoir une expérience professionnelle. C'était quoi ton objectif?
Alors, j'ai débarqué là-bas avec, si je me souviens bien, un sac de sport et un sac à dos, d'accord? Mais
Ouais.
vraiment, c'était au Caire, donc j'habitais au Caire. J'avais jamais regardé une carte du Caire par curiosité. Pourtant, c'était une époque où on avait déjà Internet, etc. Vraiment, je suis parti. En fait, c'est plus un départ de France qu'une arrivée en Égypte, en fait. Et donc, je suis arrivé là-bas. Je savais que ça allait me plaire. Je savais que ça allait me plaire parce que je suis vraiment attaché à la culture arabe, à la langue arabe, comment dire, à tout ce qui est les us et coutumes arabes. Euh, et puis, euh, et puis, effectivement, au bout de 2, 3 mois, bah, tous les matins, lorsque je me levais, je me disais, purée, qu'est-ce que j'ai de la chance de vivre dans ce pays. Et au bout de 3 ans, en fait, il y a eu. J'étais un peu lassé, mais au fait, c'était plus une question d'opportunité. J'étais un peu en voyage. J'étais en voyage chez un ami qui habitait à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Et puis j'ai rencontré quelqu'un français, un peu par hasard, avec qui on a discuté. Et puis, en fait, il m'a dit, bah, écoute, moi, j'aimerais bien que tu viennes travailler avec moi parce que je cherche quelqu'un qui a ton profil. Et quelqu'un avec qui je m'entende, et au fait, c'était mon chef aux Émirats Arabes Unis. Donc c'est un peu, en fait, tout ce qui s'est passé, c'était un peu des opportunités, quoi. Que ce soit mon arrivée, mon départ pour l'Égypte spécifiquement, et aussi mon changement après 3 ans pour aller vivre aux Émirats Arabes Unis.
C'est des opportunités, mais en même temps, si tu n'avais pas pris le risque, entre guillemets, ou si tu n'avais pas osé prendre ton sac à dos et partir, et t'installer à l'étranger, et montrer que tu étais capable de t'installer à l'étranger, puis de faire ton réseau là-bas, aller voir ton ami à Abu Dhabi, ça ne serait pas fait, ça ne se fait pas tout seul. Si tu étais resté dans ta boîte, en France, sûrement que tu n'aurais pas eu les mêmes opportunités.
Ah, mais ça, c'est très très clair. Et moi, j'ai une conviction, en fait, et c'est ce qui me permet d'avoir, si tu veux, cette flexibilité. c'est que j'ai une conviction, c'est que enfin, si on veut vivre quelque part, c'est complètement sous notre contrôle. C'est-à-dire que si j'ai envie de vivre en Zimbabwe, je prends mon sac à dos, je vais au Zimbabwe et je sais que dans 3 ans, je serai installé au Zimbabwe, que je serai à l'aise, etc. Ça dépend vraiment du courage et non pas que je veux dire que je sois courageux ou quoi que ce soit, mais il faut les opportunités, il faut aller les chercher et il faut vraiment les provoquer. Et il faut se donner tous les moyens pour justement bah, qu'elles arrivent, quoi. Donc voilà, si on veut travailler en Algérie, on va en Algérie avec un sac à dos. Et moi, je vous garantis qu'on s'installe en Algérie si on est convaincu, si on a vraiment le désir de s'y installer, par exemple.
Je tenais à justifier parce que quand tu as dit qu'en fait c'était des opportunités, on a l'impression que voilà, c'était un coup de chance, tu vois. Genre, tu as rencontré quelqu'un à Abu Dhabi, un coup de chance. Tu as trouvé un job là-bas, coup de chance, mais au final, pour les profils qui ont un peu d'audace, qui ont un peu de. Qui osent, bon, nous, on croit plutôt au destin, mais le destin est plus favorable à ce genre d'opportunité, on va dire.
Exactement, exactement. Et puis enfin, on s'adresse, j'imagine, à une majorité de grande majorité de musulmans. Bah, nous, en tant que musulmans, on a des convictions. C'est pas seulement une espèce de truc qu'on a entendu, qui oui, ça, on sait, etc. On a des convictions. C'est que notre subsistance, en fait, nous est garantie tout au long de notre vie. Donc, à partir du moment où on n'a pas peur de mourir de faim ou de dormir dehors, etc. Lorsqu'on ira dans un, lorsqu'on voyage ou qu'on va dans un nouvel endroit où on veut s'installer, etc. Et ben à partir de ce moment-là, on a une certaine confiance, en fait, qui nous permet de, qui doit nous empêcher d'avoir peur, quoi. Et donc on devrait être, enfin, si on se fie à notre religion et qu'on est convaincu, on devrait pas avoir peur de bouger ou de provoquer ces opportunités. En allant s'installer un peu, entre guillemets, à l'arrache, dans un pays dans lequel on souhaite vivre. Et je dis ça surtout parce que j'en vois beaucoup et je suis en contact avec énormément de personnes qui sont en France, qui veulent s'expatrier pour X ou Y raisons, et en fait, qui posent trop de questions, qui ont peur, oui, mais le coût de la vie, oui, mais etc., on m'a dit que, etc. Non, il faut vraiment pas avoir peur. Et la meilleure façon de s'expatrier, pour moi, la plus simple des façons de s'expatrier, c'est de pas faire trop de calculs, de se préparer bien évidemment un budget et puis en avant, quoi.
Donc ensuite, tu es parti tu m'as dit à Abu Dhabi, ça, ou à Dubaï?
Ah non, je suis parti à Dubaï ensuite. La personne que j'avais
Dubaï.
rencontrée, c'était par l'intermédiaire d'un ami d'Abu Dhabi, mais finalement, enfin, le poste était basé à Dubaï. Donc c'était en 2000, 2000 combien? 2006, 2007? Ouais, 2007, il me semble. Donc, où je me suis installé à Dubaï, j'étais célibataire à cette époque. Alors, j'ai commencé à travailler dans le secteur de ce qui est comptage de l'énergie intelligente. Donc, c'était une passerelle entre le domaine des télécommunications et celui de l'énergie. Le boulot était vachement intéressant. C'était un boulot de gestion des équipes de support technique sur la région. Donc, on avait un bureau on avait deux bureaux en Arabie Saoudite. Il y avait le bureau de Dubaï et on était en instance d'ouvrir un nouveau bureau à Bahreïn. Donc le rôle, c'était de gérer un peu les plateformes de support technique client, etc. Et ensuite, j'ai bifurqué sur un rôle commercial. Alors ça, c'était le boulot. Par contre, bah, à mon arrivée à Dubaï, c'était un peu au bout de 2 mois, 3 mois, je me suis dit, bon, bah, je vais pas durer ici. Parce que je suis passé du Caire à Dubaï, c'est deux environnements qui n'ont absolument rien à voir. Moi, je suis plus populaire que bling-bling. Donc, je me sentais pas très bien, en fait. Je me sentais pas très bien, j'étais pas à l'aise. Voilà. Mais finalement, enfin, je me suis un peu habitué à ce mode de vie. Et donc, je suis resté 11 ans là-bas je suis reparti avec une épouse et 3 enfants qui sont venus. Enfin, mon épouse est, quand je me suis marié en France, mon épouse est venue me rejoindre et on a eu 3 enfants qui sont nés aux Émirats.
Une des difficultés quand on expat, quand on part tôt, comme tu l'as fait, comme je l'ai fait, comme beaucoup le font, c'est de se marier souvent. Quand pendant ces pays où on n'a pas beaucoup de personnes qui nous ressemblent culturellement, c'est assez compliqué. Et du coup, toi, tu es retourné en France pour te marier et tu es retourné
Ouais.
aux Émirats.
Ouais, c'est ça exactement. Alors, je me rappelle bien. Alors, j'ai pris un aller-retour sur une semaine en France. Et bon, bien évidemment, c'était pour me marier. Donc, je suis parti en France. Ma famille avait un peu tout préparé, etc. C'était assez rapide, hein, c'était assez un mariage un peu sommaire. Et je me suis marié. Et le soir de mon mariage, donc, je suis rentré avec ma nouvelle femme à 22 heures. On avait un vol et on est parti aux Émirats, quoi.
Marrant.
Donc voilà. Ouais, c'était assez marrant, mais c'était un peu troublant, en fait. Déjà de partir des Émirats en disant, tiens, je reviendrai pas seul. Et puis après, bah, s'habituer, parce que quand on vit tout seul pendant pas mal de temps, en l'occurrence là, il me semble que c'était 4 ans, 4 ans et demi, j'habitais tout seul entre mes 22 et mes 26 ans. Et au fait, c'est assez perturbant d'avoir une nouvelle personne qui rentre dans ta vie. Et donc, on fait plus ce qu'on veut, quoi. On n'est plus complètement indépendant. Surtout une personne qui s'installe avec toi dans un pays qu'elle ne connaît pas. Donc, il faut intégrer cette personne à l'environnement qui est loin de sa famille, etc.
Oui.
C'est pas compliqué, mais c'est un peu troublant, en fait. C'est un changement radical de ses habitudes de vie.
Oui. Et après, en général, il y a deux cas de figure. C'est soit l'un des conjoints, quand il y a le mari, quand ça peut être l'homme ou la femme, ça s'habitue pas au pays et du coup. Ça peut causer des problèmes.
Ouais.
Soit les deux personnes s'acclimatent bien au pays. Et dans ce cas-là, une fois qu'ils étaient en famille, même ça a été mon cas aussi, en fait, ils avaient une toute autre vision de la vie dans ce pays-là et ils étaient beaucoup plus à l'aise.
Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'au fait, au final, après, on se concentre plus sur le foyer, quoi. Et le reste, ça devient un environnement qu'on côtoie beaucoup moins, quoi. Alors que quand on vit tout seul, bah, moi, j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien discuter, j'aime bien. Donc, on passe notre temps dehors à aller voir les autres, à recevoir du monde, etc. Et puis là, bah, quand on se marie, encore plus quand on a des enfants, bah, on se concentre sur sa famille. Et au fait, on passe au second plan, quoi. Et eux, bah, surtout les enfants s'habituent, donc parce que c'est leur environnement, ils sont nés là, ils ont connu que ça. Donc nous, derrière, on s'adapte. Et puis, de toute façon, il y a une routine qui s'installe. On pourrait être installé n'importe où. Il y a une routine qui s'installe et finalement, bah, on est dans, on, ça devient une zone de confort, en fait, le pays dans lequel on se sentait pas super bien au départ.
Oui. J'en connais quand même, qui sont même revenus en France parce qu'ils n'arrivaient pas à se marier à l'étranger. Il y en a beaucoup comme ça, hein, qui partent, qui sont très bien installés, qui ont une très belle position. Mais voilà, le temps passe, les années passent et ça, tu trouves pas la personne et voilà, tu rentres en France. Tu rentres en France, tu te rapproches de la famille un petit peu. Mais c'est comme
Ouais.
ça. Ouais. C'est un truc à prendre
Ouais,
en compte pour ceux qui veulent partir. Qui veulent s'expatrier, que ça peut être voilà, c'est à prendre en compte dans leur projet. Très très bien. Et du coup, qu'est-ce que tu en as retiré de tes expériences en Égypte et à Dubaï? Tu l'as pas dit, mais tu es resté une dizaine d'années, 11 ans, je crois, à Dubaï.
c'est ça, ouais, c'est ça. Je suis
Et tu
resté
as dit
11 ans à Dubaï,
2 ans et demi, 3 ans
en
en
Égypte.
Égypte.
Ouais, en Égypte, ouais. Bah, qu'est-ce que j'en ai tiré? Bah, déjà, la grosse leçon en Égypte, c'est que, au fait, c'est facile. S'expatrier, c'est pas compliqué. Voilà. Ça, c'est le truc que j'ai réalisé. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je réfléchissais autant avant de m'expatrier de France, alors que c'est vachement simple, quoi. Et donc, ça m'a donné cette ce voilà ça m'a donné ce désir de bouger, de vivre en dehors de la France, et voilà. Donc ça, c'était la grosse leçon en Égypte. J'ai beaucoup appris aussi, bien évidemment, sur le côté culturel. J'ai découvert un nouveau pays, des nouvelles personnes, une nouvelle culture. Je me suis mis à parler presque parfaitement égyptien. Bon, je parlais arabe algérien à la base, hein. Donc voilà. Après, quand j'ai bougé aux Émirats, ben, en fait, je parlais égyptien avec les Émiratis, puisque ils comprenaient pas l'algérien, donc je parlais égyptien. On me prenait pour un égyptien, etc. Donc, et là, ce que j'ai retenu de mon expérience aux Émirats, les Émirats, c'était vachement formateur sur le plan professionnel. C'est un pays où il y a une concurrence énorme. Il y a toutes les sociétés qui sont là-bas, qui sont aux Émirats, où il y a des Indiens, des Chinois, des Philippins, donc c'est des cultures professionnelles qui sont assez difficiles à concurrencer. Donc j'ai vachement appris sur le côté professionnel, notamment sur le côté commercial et puis sur le côté performance, etc., négociation, etc. Ça me sert encore beaucoup aujourd'hui. J'ai un de mes plus gros clients, c'est une société indienne ici, d'accord? Et ils veulent travailler en Algérie, hein. Et ils veulent travailler avec nous. Pourquoi? Parce que on arrive à se comprendre, en fait. Que ce soit au niveau de la langue, au niveau de la façon de travailler, au niveau des attentes d'une boîte indienne par rapport sur un marché algérien, etc. Donc, vachement appris côté professionnel. Et puis, bien évidemment, pour moi, les Émirats, c'était un tremplin financier, bien sûr, parce que j'ai pu. Bon, les niveaux de salaire sont assez élevés là-bas, ou étaient assez élevés, parce que maintenant, c'est plus le cas. À l'époque où j'y étais, ce qui m'a permis en fait de me bâtir une cagnotte que j'ai immédiatement investie sur mon projet en Algérie. Donc ça m'a permis de réunir des fonds propres pour lancer mon propre projet et ça c'est les principales choses que ça m'a apporté outre le fait que je m'occupais de la région Afrique-Moyen-Orient, donc j'ai vachement bougé. Je me suis fait pas mal de contacts un peu partout, notamment en Arabie Saoudite, où du coup, aujourd'hui, bah, ça me sert aussi parce qu'on a lancé une usine à Médine en Arabie Saoudite, qui est pour la même marque, donc lancée par notre société algérienne. Donc voilà. Donc c'était professionnellement, c'était génial.
Ok, trop bien. Et du coup, d'où t'es venue l'idée de tenter ta chance en Algérie?
Alors, 3 ans avant de partir des Émirats, donc après à peu près 7-8 ans d'expérience là-bas, je me suis dit, donc j'ai changé de boîte. J'étais dans le domaine de tout ce qui est énergie solaire, smart city, etc. C'est une boîte américaine. Et quand je les ai rejoints, je me suis dit que ma prochaine étape, c'était l'Algérie. D'accord? Parce que si j'avais un peu une lassitude des Émirats et j'avais des enfants qui commençaient à grandir. Et je me voyais pas les éduquer aux Émirats parce qu'en fait je me rendais compte que c'était des enfants qui étaient de mère française, de père algérien, nés aux Émirats, et donc ils se sentaient pas quand je leur demandais t'es de quel pays, bah un jour c'était France, le jour c'était les Émirats, le jour c'était l'Algérie. Et donc je voyais que j'arrivais pas à leur donner, à leur inculquer un certain sentiment d'appartenance à un pays, donc une identité. Et donc je me suis dit c'est pas ici que je veux éduquer mes enfants. Et voilà. Donc je me suis dit bon ben, l'Algérie c'est un super pays où je pourrais les éduquer et leur inculquer une certaine sentiment d'appartenance à un peuple, à un pays, etc. Et donc voilà. Donc ça poussait dans ma tête, et puis du coup, par rapport à ce projet personnel, j'ai dû adapter ma carrière professionnelle. Donc, je travaille pour une société américaine, on avait des marchés un peu partout. On m'a demandé de développer le marché nord-africain, je suis parti Maroc, on a eu un projet au Maroc. Ensuite, je me suis dit aller à l'Algérie, j'ai trouvé un partenaire local en Algérie et j'ai proposé à mon PDG, qui était mon chef à l'époque, un Américain, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on investisse en Algérie, il y a un énorme marché, un gros potentiel. Par contre, si on investit localement, il faut qu'on fabrique localement une partie de nos équipements, parce que sinon, ça ne marchera pas. Et l'Algérie, c'est un pays qui s'industrialise, donc on ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on arrive avec une approche industrielle en Algérie. Bon, bien évidemment, un Américain, l'Algérie, machin, il sait même pas où est-ce que c'est sur une carte. Donc, écoute, pas possible. 2, 3, 4 fois, on a beau monter aux États-Unis, présenter des trucs, machin, ça marche pas. Donc, en fait, je me suis dit, bon, bah, là, j'ai une super opportunité. Je voyais que le marché de la LED était un marché en forte croissance en Algérie, c'est toujours le cas, qu'il n'y avait pas de fabricants. J'avais mon distributeur local qui avait un terrain industriel sur place, une concession de l'État. Et donc, il m'a dit, écoute, cette concession, si tu veux qu'on fasse un truc ensemble, il n'y a pas de souci, je m'entends très bien avec lui, je m'entends toujours très bien avec lui. Et donc, on a lancé, on s'est dit, bon, bah, super, une idée de fabrication. On commence avec des lampes LED et ensuite, on se diversifie. Et puis, on a commencé à étudier le projet, etc., etc., à mettre en place le truc, business plan, machin, acquisition des machines et tout. Et dès que le projet a commencé à démarrer, c'est-à-dire qu'on était presque en phase d'exploitation, eh ben, j'ai démissionné de ma boîte et je me suis installé en Algérie. Et c'était en mois de juin 2017.
Ok. Du coup, tu t'es associé avec une personne qui était déjà sur place. Ce que tu as dit, hein.
Ouais, je me suis associé avec une personne qui était déjà sur place, qui était mon distributeur lorsque je bossais dans cette boîte américaine, qui était mon distributeur avec qui on a énormément de synergies professionnelles et puis on s'entend bien personnellement. Mais bon, c'est mon associé et puis on a une relation personnelle, amicale, mais on a surtout une relation professionnelle qui est bien cadrée, bien documentée, etc., etc. Donc, on n'a pas une approche traditionnelle ici où les gens se font un peu trop confiance. On se
Ouais.
fait confiance, on est des amis, mais tout est carré, tout est sur papier.
D'accord. Donc raconte-moi un petit peu comment est-ce que c'est passé de la création de l'entreprise, etc. Tu avais ton business plan, comment tu as fait ton étude de marché, comment est-ce que vous avez investi, est-ce que c'était tout en fonds propres? Alors raconte-moi un petit peu l'histoire, le début
Ouais.
de.
Alors, tout a été investi en fonds propres, d'accord, avec mon associé, d'accord. Donc, ça nous a demandé, on va dire, enfin, pour être transparent, à peu près, je sais plus, 300, 400 000 dollars en tout, qu'on a investi pour tout ce qui est achat de machines, fonds de roulement, etc. Et puis donc, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé, enfin, lui a demandé à ses employés. De son autre boîte qui est dans le domaine de l'énergie solaire, bah de s'occuper de tout ce qui est administratif, donc d'obtenir le registre de commerce en Algérie. C'est des procédures qui sont très simples, hein. C'est des procédures qui sont très simples en Algérie malgré ce qu'on entend. Donc il suffit d'avoir un registre de commerce et c'est même simplifié parce que maintenant il y a quelque chose qui s'appelle l'ANDI. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est un guichet unique pour tous les producteurs. N'importe qui veut se lancer dans la production va aller voir ce guichet unique, et ce guichet unique va coordonner entre les impôts, donc tout ce qui est obtention de la carte fiscale, les domaines, donc pour tout ce qui est obtention de terrain industriel, et puis tout ce qui est registre de commerce, donc les documents administratifs relatifs enfin, à la création de la société, quoi. Et donc ce guichet va tout coordonner. On a obtenu en l'espace de, allez, 3 semaines, 3 semaines, on a obtenu notre carte fiscale, notre registre de commerce, un compte bancaire, et c'est tout ce qu'il nous fallait pour commencer à travailler, à facturer, à embaucher, etc. Donc on a embauché. Alors il y a plein de procédures qui sont facilitées justement avec des nouvelles dispositions qui encouragent à la production nationale. On a embauché très très facilement avec des subventions sur les salaires de nos employés. On a on va dire comment on appelle ça? Enfin, fiscalement des exonérations de taxes parce qu'on est producteur et parce qu'on est aussi dans une zone rurale parce qu'on a un site de production qui est dans une zone rurale dans la wilaya de Médéa qui est à peu près 1 heure de voiture au sud d'Alger par autoroute. Et on a un bureau commercial qui est sur Alger. Donc, on emploie une cinquantaine aujourd'hui de personnes dans une zone rurale, d'accord, dans un village de 12 000 habitants. Et puis, on n'a eu aucun problème administratif depuis qu'on a commencé. On a des contrôles fiscaux tous les 3, 4 mois, d'accord, ce qui est normal, hein, ce qui est normal. Donc, tout est en règle. On a des contrôles du, comment on appelle ça, la direction. Du commerce, on a des contrôles, la direction du travail, tout se passe bien, les gens très courtois, ils vérifient que tout le monde est bien employé, que tout le monde a une assurance maladie, etc., etc. Et en fait, enfin, ces gens-là nous aident aussi puisqu'ils répondent à nos questions lorsqu'on a certaines difficultés, on les approche, etc. Je dis pas que tout est rose en Algérie, mais par contre, moi, d'après mon expérience, j'ai eu aucun problème. Et je pense que la clé de tout ça. En fait, pourquoi est-ce qu'on évite les problèmes? C'est parce qu'on respecte la loi au mot près, d'accord? Et je pense que l'Algérie, c'est tout. On peut tout dire sur l'Algérie, mais par contre, on ne peut pas dire que ce n'est pas un État de droit, puisque la loi s'applique vraiment. Et personne ne peut aujourd'hui vous mettre en difficulté si vous respectez la loi à la lettre.
D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes rentable?
Ouais, on est rentable aujourd'hui. Alors, on est rentable aujourd'hui, clairement. Alors, on a une croissance sur les 2 dernières années qui est de plus de 100% quand même. Et cette année, en 2021, on est assez confiant sur le fait qu'on arrivera à un chiffre d'affaires annuel qui est de l'ordre de 250 millions de dinars. Ça va faire allez, on va dire près de 2 millions d'euros, un peu moins de 2 000, on va dire 2 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ce qui est pas mal, et donc ce qui nous permet de dégager des bénéfices de l'ordre de, on va dire, 15%. Donc voilà, je suis très transparent, on fait le calcul, ça fait je sais pas, du 200 000 dollars, un truc comme ça, 200, ouais, c'est ça, 200, 300 000 dollars de bénéfices nets. Donc ouais, c'est intéressant qu'on réinvestit évidemment dans la société pour augmenter, pour financer en fait sa croissance, quoi. Parce qu'on a énormément de demandes. On exporte en Tunisie également. Voilà. Donc l'Algérie, c'est un grand marché où tout se vend en fait. Où tout se vend. Tout se vend.
C'est-à-dire.
Bah, ce que je veux dire par là, et là, tout le monde est d'accord, je parle avec énormément de distributeurs, énormément d'importateurs qui me disent que le stock mort, ça n'existe pas en Algérie. Et au fait, quand on parle aux commerçants, qu'ils soient grossistes, détaillants, importateurs, etc., en Algérie, ils nous disent tous que leur richesse, c'est leur stock. Donc, en fait, ils ont tendance à avoir à travailler en flux très tendu financièrement. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'argent dans leur compte, mais ils ont des stocks qui sont énormes. Et leur compte en banque, en fait, c'est le stock. Et pourquoi? Bah, parce que leur stock est vendu, en fait. S'il n'est pas vendu demain ou la semaine prochaine, il sera vendu dans un an et demi, mais en aucun cas, ça sera une perte. Et c'est vrai qu'on a des épisodes qui sont assez marrants. Et nous, on est resté avec une petite anecdote, hein, avec du luminaire d'éclairage public qu'on avait fabriqué. On a gardé ça en stock pendant 1 an et 2 mois. D'accord? Pendant 1 an et 2 mois. C'était, il me semble, 1200 luminaires d'une certaine gamme, etc. Et on n'arrivait pas à vendre ça, quoi. Et un jour, il y a une personne qui est arrivée et qui nous a dit, c'était un installateur, voilà ce que vous avez ce modèle-là. Ouais, on a ce modèle-là. Vous en avez combien en stock? Ben, il t'en faut combien? Il m'en faut 1150. Donc, en fait, le gars a tout pris, quoi. Et ce genre d'anecdote arrive, bon, pas avec cette propre proportion-là, mais arrive assez souvent, en fait. Et c'est typique à l'Algérie. J'ai beau raconter cette histoire à quelques concurrents, des partenaires, des machins et tout, ils me disent tous que ah ouais, ça m'arrive aussi, voilà. Et donc voilà. Donc en Algérie, tout se vend en fait. C'est l'explication de cette phrase.
Qu'est-ce que tu as trouvé donc dans la création de ta boîte, d'entreprise et dans la vie en Algérie? Qu'est-ce que tu trouves plus facile et plus difficile par rapport à tes précédentes expériences? Même si c'est bon, les
Alors,
précédentes expériences n'étaient pas dans l'entrepreneuriat, mais on va dire ta vie avec les gens et dans le travail.
différents aspects. Tout d'abord, les aspects, on va dire, positifs en Algérie par rapport à mes précédentes expériences, notamment celle aux Émirats, puisque c'était un rôle très commercial et tout. Donc, le principal avantage, c'est qu'en Algérie, la concurrence, elle est quasi inexistante par rapport à ce qu'on avait aux Émirats. Moi, il y a eu des appels d'offres aux Émirats où je soumissionnais, on était 67 sur des projets qui n'étaient pas énormissimes. Ici, en Algérie, sur des projets énormissimes dans tout ce qui est oil and gas, etc., on se retrouve à trois sociétés qui soumissionnent pour des projets à, je sais pas, 500 000, 600 000 dollars. Ça m'a un peu marqué. Les marges sont plutôt importantes en Algérie par rapport à ce qu'on a là-bas. Bien évidemment, quand il y a moins de concurrence, les marges sont plus élevées. Par contre, ouais, le point négatif, j'ai envie de dire, c'est l'environnement, en fait, l'environnement des affaires, qui est pas mal, hein, en Algérie, hein. On arrive à faire des affaires, l'environnement est plutôt favorable, mais pas aussi favorable qu'aux Émirats Arabes Unis, où c'est très facile de ne serait-ce que, je sais pas moi, tout ce qui est Bah, c'est beaucoup plus facile de faire du commerce aux Émirats. Voilà. En règle générale, que ce soit des transactions commerciales, que ce soit des impôts où il n'y en avait pas à l'époque où j'étais là-bas. Donc voilà. Meilleur environnement des affaires aux Émirats, mais plus de concurrence par rapport à l'Algérie. Après, ce qui est vachement intéressant en Algérie, c'est que les affaires se font beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire que la prise de décision dans le privé, hein, avec les clients privés, est très rapide. Aux Émirats, c'est interminable. C'est interminable. Il y a des projets entre la date de soumission et la date d'attribution du projet, c'était 3 ans, quoi. Alors qu'en Algérie, c'est 2 semaines. C'est 2 semaines
C'est
pour
sûr que
l'aboutissement
si
du
tu passes
projet.
de si t'as 67 ou 66 concurrents, ça prend du temps
Ouais, ouais.
à tout
Bah, ça.
revoir.
Voilà. Non, non, à tout revoir, mais surtout à. Ah oui, mais attendez, on va changer ça parce que la technologie a changé. Et puis, il y a un concurrent qui va aussi arriver à les convaincre que finalement, ça, c'est pas la bonne technologie. Il faudrait changer l'appel d'offres, machin et tout. Et il y a moins de transparence, au fait, au niveau de l'évaluation. Il y a pas de code de marché public aux Émirats Arabes Unis, alors qu'il y en a un en Algérie qui régit les appels d'offres. Aux Émirats, c'est j'envoie un appel d'offres, je décide ce que je veux, je prends qui je veux, et vous n'avez pas le droit de parler. Et ça, c'est écrit dans les cahiers de charges, hein. C'est écrit dans les cahiers de charges. En Algérie, non. Il y a un code des marchés publics, il y a un code des marchés pour les clients publics, et puis le client est obligé de suivre ce code des marchés dans les attributions, dans l'évaluation, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus réglementé en Algérie sur ce côté-là, ce qui est favorable au fait aux opérateurs économiques par rapport aux Émirats Arabes Unis. Et il y a autre chose aussi qui est très important, c'est qu'aux Émirats Arabes Unis, bon, c'est la culture de, c'est leur façon de fonctionner aussi, c'est que on peut être, ça m'est déjà arrivé, on peut être PDG de l'équivalent de l'EDF en France ou Sonelgaz en Algérie et soumissionner au fait et déposer une offre à un appel d'offres. En fait, moi, j'ai déjà soumissionné avec la boîte dont le propriétaire était le PDG de cette fameuse l'équivalent EDF qui s'appelle Diwa là-bas. Et puis on prend des appels d'offres et c'est, en fait, le conflit d'intérêts aux Émirats Arabes Unis n'est pas illégal. D'accord? Donc ça met un peu en difficulté parce que, en fait, tout peut arriver et c'est pas parce qu'on a la meilleure offre qu'on va prendre le marché.
Oui. Tu as parlé des côtés positifs en Algérie, des opportunités de marché notamment. Est-ce que le marché se développe bien en Algérie actuellement? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce que le marché n'est pas attractif?
D'accord. Alors, il se développe. Alors, je vais parler pour les domaines que je connais, donc domaine de tout ce qui est éclairage. Ça se développe de façon exponentielle parce qu'il y a pas mal de projets d'infrastructure qui demandent de l'éclairage, que ce soit une route, que ce soit un hôpital, que ce soit une base de vie dans le désert ou enfin peu importe. Il y a énormément de projets qui sont lancés. On n'arrive même pas à suivre. Pour dire la vérité, on n'arrive même pas à suivre, on n'arrive même pas à soumissionner partout, on n'arrive même pas à fournir tout le monde. Hier, j'ai la police, la DGSN, qui m'a appelé pour un projet de stade et ils voulaient commander chez nous. Ben, j'ai refusé leur commande parce que on est en rupture de stock de cet équipement-là, par exemple. Donc, on n'arrive pas à suivre. Donc, oui, il y a un gros marché. Ensuite, tu m'as dit pourquoi est-ce que
Parce que c'est pas
c'est
attractif.
Pourquoi c'est pas attractif? Bah, au fait, c'est pas attractif pour toutes les boîtes étrangères parce que c'est très compliqué de faire des affaires en Algérie lorsqu'on n'est pas algérien. Pour deux raisons, il y a des lois protectionnistes, d'accord? Donc une loi qui oblige n'importe quelle société algérienne ou alors presque toutes d'être détenue à 51% par une entité algérienne. Donc ça repousse un peu les sociétés étrangères. Et puis la deuxième raison aussi, donc ça c'est le protectionnisme, on va dire, administratif. Il y a aussi un protectionnisme qui est invisible. En fait, c'est le fait que culturellement, c'est très compliqué de se faire accepter dans le monde des affaires en Algérie quand on n'est pas algérien. En fait, c'est très compliqué de faire des affaires ici quand on n'est pas algérien et qu'on ne comprend pas la culture, qu'on ne comprend pas les codes. Qu'on ne comprend pas la langue aussi, la langue est vachement importante. Donc, en fait, avec tout ça, l'Algérien est très méfiant de l'étranger. C'est peut-être par rapport à l'histoire colonialiste, Mais quand un Français rentre dans une salle, eh ben, je pense que la majorité des gens dans cette salle vont penser, attends, faut qu'on lui montre qu'il est plus en France. Donc c'est un peu ça. Et donc,
D'accord.
c'est réel, et c'est réel, et c'est très compliqué de faire des affaires en Algérie quand on n'est pas algérien, et même quand on est marocain ou tunisien, qui sont en fait, c'est les mêmes personnes, c'est quasiment les mêmes langages, même culture, religion,
Très
etc.
proche.
Voilà. Mais c'est un pays qui est très, très nationaliste, en fait, même dans le monde des affaires.
Ok, d'accord. Donc les opportunités, elles sont plutôt chez les Algériens ou les binationaux.
Ouais, clairement. Ouais.
Ok. Une autre idée reçue qu'on entend souvent, bon, j'attends de voir ce que tu en penses, c'est qu'il y a beaucoup de corruption, notamment les entreprises qui marchent très bien, de donner des petits cachets, tu vois, à certaines personnes pour pouvoir continuer à faire des affaires. Est-ce que c'est vraiment le
Ouais.
cas?
Alors, c'était le cas il y a peu, avant qu'il y ait un changement de pouvoir en Algérie. Bon, on connaît l'histoire, Kairak, etc., etc. Donc c'était le cas, clairement. C'était le cas dans le sens où il y avait certains domaines qui étaient travaux publics, par exemple. C'était compliqué d'avoir un gros projet dans les travaux publics quand on n'était pas quand on faisait pas partie de l'équipe, ce qu'on appelle ici la SARBA, qui est au fait le cartel, on va dire. Voilà.
Ouais.
Donc c'était compliqué. Par contre, les boîtes avaient des miettes. Et elles étaient souvent opprimées par ces gros groupes qui prenaient les projets, les sous-traitaient, etc. C'était facile au fait pour ces gens-là aussi d'avoir des prêts à la banque, d'avoir plein de trucs. Maintenant, ça a changé. Ça a réellement changé sur ce plan-là, dans la mesure où maintenant il y a vraiment une traque à la corruption. Et ce qui devient même handicapant, hein, c'est que les prises de décision niveau entité publique sont vachement lentes parce que tout le monde a peur de prendre des décisions, que ce soit un ministre, un wali, un directeur de la police ou quoi que ce soit. Donc maintenant, il y en a beaucoup moins. Bon, la corruption, ensuite, il y en a partout dans le monde.
Oui.
Voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup en Algérie. Je ne sais pas s'il y en a un peu, il y en a toujours maintenant. En tout cas, nous, on n'a jamais été confrontés à ça. On a déjà été confrontés à des histoires de douaniers qui essayent d'enquiquiner pour qu'on lui propose un billet, etc. Ce qu'on n'a jamais fait, c'est pas dans nos principes. Et la meilleure façon d'éviter la corruption, c'est de respecter la loi, en fait. Parce que la corruption en Algérie, qu'est-ce que c'est? Bon, je parle pas de tout ce qui est obtention de marché, etc. À une époque, il fallait se mettre d'accord avec les décideurs pour leur dire, bon, bah, tu me donnes ce marché. Et puis je te garde 10 millions de dinars de côté, que je te mets ça dans un compte à l'étranger, etc. À l'époque, c'était ça. Il y a eu des affaires, il y a eu justice, machin, etc. J'ai des dizaines d'exemples concrets. Après, il y a le deuxième volet de la corruption, c'est tout ce qui est corruption pour faciliter quelque chose. Donc, par exemple, je vais importer un conteneur de quoi que ce soit. Et puis je vais faire une fausse déclaration pour moins payer en droits de douane. Et puis le douanier va me dire, bon bah écoute, t'as déclaré des pommes alors que c'est des bananes pour économiser en droits de douane. Et ben si tu veux que je te sorte ton conteneur sans te faire de contentieux, sans que ça monte et que tu payes des amendes folles, bah tu me verses 500 000 dinars. Et au fait, cette personne va payer 500 000 dinars pour économiser 3 millions de dinars de droits de douane, par exemple. Donc ça, c'est la corruption qui est la plus courante, la plus courante. Et donc, pour éviter cette corruption, c'est bah, quand j'importe des pommes, je déclare des pommes, et si le douanier m'embête, et bien, je lui dis, écoute, voilà, j'ai importé ça, il n'y a pas de fausse déclaration, t'es pas dans ton droit de me demander ça, et puis je vais faire monter le problème, etc., et puis ça se calme tout de suite. Hein. Donc, la corruption, c'est souvent quand les gens respectent pas la loi et que ils sont confrontés à d'éventuelles pénalités.
Oui, j'ai lu un article récemment dans The Economist qui parlait d'un problème en Algérie, du prix des voitures. C'est très difficile d'importer des voitures en Algérie. Et du coup, même les voitures anciennes se vendent au même prix qu'elles avaient il y a 5 ans ou plus. Est-ce que en termes de marché, d'opportunité de marché, c'est pas beaucoup plus ouvert, j'ai l'impression, pour ceux qui veulent produire directement en Algérie plutôt qu'importer et vendre sur place?
Oui, bah, carrément, c'est bien ça, c'est clairement le cas, et c'est pour ça que qu'on n'importe pas des lampes et qu'on les fabrique ici. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, c'est un long sujet, on peut en parler pendant des heures, c'est qu'en fait, en Algérie, aujourd'hui, le pétrole, ça représente, bon, le dinar n'est pas une devise, d'accord? Donc, le dinar doit toujours être changé en dollars par la Banque d'Algérie, d'accord? C'est la seule entité autorisé à changer du dinar en dollars et du dollar en dinar, d'accord? Même si en réalité il y a des marchés parallèles, etc. Donc en fait, on a une réserve de change en dollars qu'il faut préserver parce que quand on n'a plus de dollars, bah on peut pas changer le dinar en dollars, d'accord? Donc il faut aller voir le FMI, leur demander de nous prêter de l'argent, du dollar. Le FMI va nous le prêter, mais en nous prenant de la souveraineté. C'est ce qu'on veut éviter absolument en Algérie. Donc, pour préserver ces réserves-là, il faut réduire l'importation. Parce que quand on importe, nos fournisseurs, on les paye en dollars de cette caisse. Donc, en fait,
Juste par rapport à la Banque d'Algérie, comment ils font du coup pour comment ils font pour avoir des dollars? Ils vendent certaines choses, ils font quoi?
ils vendent du pétrole et du gaz.
D'accord. Donc ils vendent du
Voilà,
pétrole et du gaz, ils remplissent leur caisse de dollars et ils fournissent
exactement.
ça aux citoyens. Ils changent ça aux
Exactement.
citoyens. Ok.
Exactement. Donc en fait, on est en déficit tous les ans de, il me semble, une dizaine de milliards entre 6 et 10 milliards de dollars tous les ans, et on a une réserve, je ne sais plus à quel niveau elle est, mais je crois qu'elle est à 40 milliards. Donc en fait,
Ouais,
on
et
a à ce
bientôt.
rythme-là, voilà. Donc on dépend un peu trop du cours du gaz et du pétrole. Donc voilà. Donc il faut diversifier l'économie pour pas être dans cette situation-là de perte de souveraineté d'ici 4, 5 ou 6 ans, ou 10 ans ou 20 ans, peu importe. Donc, l'approche gouvernementale là-dessus, elle est logique, c'est de dire, OK, on va réduire les importations, d'accord, pour ne pas
Conserver
pour ne
notre dollar,
vous savez,
nos euros.
exactement, exactement. Et on va en fait, on va diversifier. En fait, on va diversifier la production nationale pour, en fait, on va diversifier nos exportations, d'accord. Donc, on va pas seulement exporter du gaz, on va exporter d'autres choses qui vont nous rapporter du dollar, d'accord. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est encourager la production nationale, la développer pour arriver à ce but-là, donc réduire l'importation et augmenter les exportations. Donc il y a eu tout un mécanisme qui est en place hein, pour favoriser la production nationale, que ce soit, j'en parlais tout à l'heure, des exonérations de taxes ou alors des barrières douanières pour l'importation de certains produits. Certains produits qui sont interdits à l'importation, et les voitures par exemple. Et on avait même un outil de production de voitures en Algérie, mais c'était un peu un fiasco relié à la corruption, machin, etc. Où c'était plus du montage de véhicules qui était quasiment fini, donc c'était une façon de détourner de l'argent. Ça a été arrêté maintenant. Donc voilà. Donc il y a plusieurs initiatives qui sont en place, qui encouragent en fait les producteurs nationaux pour arriver à ce but d'être un exportateur d'autre chose que du gaz, pour avoir une économie pérenne et éviter d'emprunter de l'argent.
D'accord. OK, ça fait
Et
sens.
l'exemple des voitures, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est qu'on s'est dit ça à une époque. Donc, à l'époque, le cartel qui était au pouvoir s'est dit, bon, bah, sous couvert de production nationale, on va importer des voitures, en fait, qui vont être enfin, sans les roues. Bon, sans les roues, pas complètement. Renault, par exemple, avait tout un produisait ici en local. Je connais des fournisseurs de Renault, etc. Pour faire simple, on va importer des voitures qui sont en kit. On va les monter en Algérie. On va dire que c'est fabriqué en Algérie et on va les vendre sur le marché algérien et on va interdire l'importation de véhicules. On va dire, si vous voulez un véhicule, vous êtes obligé de l'acheter en Algérie parce qu'on produit en Algérie et qu'on veut préserver notre réserve de dollars. Donc en fait, c'est quelques personnes, je crois qu'il y avait 5 ou 6 fabricants, profitaient de cette, on va dire, de ce prétexte pour inonder le marché algérien de leurs véhicules et faire de l'argent qui allait profiter à d'autres personnes, etc., etc. Donc maintenant, ces boîtes-là ont été fermées. Il y a des procès dans tous les sens et l'importation est toujours interdite. Donc là, en Algérie, on est sur un marché où il y a une demande de véhicules, mais il n'y a aucune offre. Donc ça a engendré une hausse des prix du véhicule d'occasion. Et donc c'est pour ça qu'on est à des niveaux, mais complètement irraisonnables, de prix sur les véhicules d'occasion.
Ok. Et en plus, j'avais même vu que tu me parlais du cartel qui remontait les voitures et qu'au final, le prix des voitures en Algérie coûtait plus cher, revenait plus cher à une voiture importée déjà montée.
Et,
C'était
mais
n'importe quoi.
exactement, en fait, ce qui s'est passé, voilà, c'est que, bon, bien évidemment, ces véhicules qu'on achète chez Hyundai à l'étranger, etc., par exemple, vont arriver désassemblés. Mais en fait, on s'est rendu compte que, et quand elles arrivent, quand on les importe désassemblées, on paye en dollars le fournisseur. D'accord?
Ouais.
Donc, en fait, on s'est rendu compte que le coût du véhicule désassemblé était plus élevé que le véhicule en produit fini. Donc, en fait, on ne résout pas ce problème de réserve de casse. Parce qu'on paye on paye même plus cher. On est arrivé au final à une espèce de protection de 5-6 pseudo-fabricants qui avaient l'exclusivité du marché algérien.
Ouais. D'accord. Et du coup, toi, cette situation, le fait que le dinar soit pas une devise, ça te pose pas de problème pour toi économiquement, d'indépendance économique, d'investissement à l'étranger, etc.
Bah, si, enfin un peu quoi, parce que nous le problème qu'on a là-dessus, c'est qu'on a vraiment du mal à gérer nos fournisseurs. En plus de ça, il y a deux façons de payer nos fournisseurs, c'est soit par lettre de crédit ou alors par remise documentaire. Sans rentrer dans la technique, en gros, on peut pas leur faire de transfert direct, c'est interdit. Donc au fait, on doit trouver des fournisseurs qui acceptent ces modalités de paiement qui sont pas hyper avantageuses pour eux, et garder ces fournisseurs. Sauf que des fois, bah, on a le temps que qu'ils reçoivent leur paiement, donc ça monte de notre compte bancaire jusqu'à la Banque d'Algérie. Ensuite, la Banque d'Algérie envoie l'ordre de la banque on va dire de son compte de devises qui est basé à New York pour payer le fournisseur. Ça prend du temps. Des fois, on a des fournisseurs qui paniquent, quoi, qui me disent, attendez, c'est quoi ça? Moi, je peux pas travailler avec vous dans ces conditions-là et tout. Et quand on perd des fournisseurs, nous, c'est encore pire que de perdre des clients. Donc, on essaye de les gérer, mais bon. Après, ce qu'il faut retenir, et c'est ça qui est le plus important pour moi, c'est de se dire, tous ces problèmes-là, en fait, la conséquence de tous ces problèmes, c'est qu'il n'y a pas de concurrence en Algérie. Donc, si tout était facile en Algérie et qu'on avait un grand marché, comme on a aujourd'hui, etc., etc., on aurait plein de boîtes qui viendraient ici et on aurait une concurrence complètement folle. Aujourd'hui, toutes ces difficultés, elles découragent 98% des gens qui ont des intentions d'entreprendre en Algérie. Donc, moi, ça me va complètement, en fait. Voilà, je vois ça comme une énorme opportunité.
J'imagine que vous commencez à avoir un peu des. Vu que le gouvernement encourage la production locale, vous avez des communications avec le gouvernement, enfin, toutes les boîtes qui sont comme toi, qui produisent localement. Est-ce que vous avez des communications avec le gouvernement pour vous faciliter un petit peu les choses?
Oui, bien sûr. Bah, justement, comme je te disais, hier j'étais avec le ministre de la Transition énergétique. D'accord? Donc, c'était l'objet de la réunion, c'était quelles étaient les possibilités en termes de régulation, quelles étaient les mesures à prendre en termes de régulation pour favoriser la production nationale des lampes LED, en gros. Enfin, quelles sont les mesures réglementaires qu'ils pouvaient prendre pour favoriser, pour encourager, pour développer notre business. Voilà. Donc, on est arrivé avec des propositions très concrètes. Et maintenant, bah, faut attendre que ça se mette en place. Mais bon, faut pas trop compter dessus, évidemment, parce que bah, si ça se fait, c'est bien. Mais en tout cas, ça prendra du temps, ça prendra énormément de temps. Histoire de loi des finances, machin, faut attendre 6 mois, etc. Donc, voilà. Donc, il y a une intention, il y a une réelle intention au niveau du gouvernement d'encourager la production nationale et de créer des barrières techniques et économiques pour protéger la production nationale. Par contre, bah, c'est des décisions qui prennent du temps déjà à être prises et ensuite à être implémentées.
Ok. Et tu as dit que tu as ouvert une usine aussi à Médine. Tu as dit ça en
Ouais.
début d'interview, il me semble. Et pour le coup, là-bas, tu produis directement depuis pour le marché de l'Arabie Saoudite ou pour
Ouais, c'est
Moyen-Orient?
ça. Ouais. Alors, ce qui s'est passé, bon, pour la petite histoire, c'est que j'avais un ami partenaire en Arabie Saoudite quand j'étais basé aux Émirats. Bah, un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, il fait partie d'une grande famille de Médine. Et je lui ai dit, bah, écoute, moi, je vais partir des Émirats, je vais m'installer en Algérie. Ah bon, et tout, mais qu'est-ce que tu vas faire en Algérie, machin? Je lui ai dit, bah, écoute, voilà mon projet. Et il m'a dit, bon, bah, c'est bien. Il m'a invité en Arabie Saoudite quelques mois plus tard. Donc, je suis descendu là-bas. Je suis resté 2 semaines. Et puis, il m'a dit, écoute, il faut que je te présente des amis à moi. Donc, on a eu une réunion avec eux chez lui. Et il m'a dit, bah, écoute, nous, on en a parlé. On veut dupliquer ton projet en Algérie. On veut le dupliquer ici. On veut avoir la même usine que ce que vous avez là-bas. Il y a un gros marché, machin, etc. Et donc, je lui ai dit, pas de problème, pas de problème. Vous ramenez l'argent. Je ramène le savoir-faire. Je prends de l'equity sur cette boîte et on y va. 2 mois plus
L'equity,
tard,
c'est quelque part dans la boîte,
départ
quoi.
de la boîte. Voilà, exactement. Donc, quelques mois plus tard, bah, on sortait la première lampe Luxi à Médine. Donc, l'usine tourne à Médine. Et puis, on est dans le même domaine. C'est exactement le même modèle que ce qu'on a en Algérie.
Ok, très bien. Super. Donc, c'est-à-dire que le marché des LED dans ces pays-là, les pays nord-africains, au Moyen-Orient, c'est porteur.
Bah, moi, j'ai tendance à penser que l'Algérie et l'Arabie Saoudite sont des pays beaucoup plus similaires que ce qu'on croit. D'accord? Alors, pour les raisons suivantes, c'est que c'est des pays qui ont la même problématique économique de dépendance exagérée aux hydrocarbures. D'accord? Et qui veulent diversifier leur économie. Et puis, c'est des peuples qui ont grandi avec cette culture du gaz et du pétrole comme unique source de revenus, on va dire, pour simplifier. Et ça crée un certain état d'esprit où on se dit, où au fait déjà, on est un peuple qui, c'est le cas en Algérie, c'est le cas en Arabie Saoudite, on a beau ne pas travailler, d'accord, on mangera, on mourra pas de faim, on aura un toit, etc., parce qu'il y a des subventions gouvernementales qui sont de l'État qui sont assez importantes et qui permettent de couvrir les soins, les machins, etc. C'est un peu le cas en Algérie, c'est en Libye et en Arabie Saoudite. Donc, c'est des peuples qui cherchent pas, enfin, qui sont pas très travailleurs, en fait. Et on le comprend, hein, quand on n'a pas besoin de travailler pour vivre, ben, on ne travaille pas pour beaucoup de personnes. Et ensuite, le troisième aspect, c'est que c'est des pays, en fait, qui sont relativement conservateurs, en fait, en termes de que ce soit, je trouve, religieusement. Ou traditionnellement, quand on parle de tradition, c'est des pays qui sont très attachés à leur religion, à leur tradition. Et ça, c'est quelque chose qui se voit dans le comportement et dans l'état d'esprit des gens. Donc, je trouve que l'Algérie et l'Arabie Saoudite sont des pays qui sont vraiment similaires.
Écoute, Milou, on a fait un peu le tour par rapport à l'Algérie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que je termine par quelques petites questions?
Ouais, alors moi je dirais juste un truc, c'est un peu le message que j'ai voulu transmettre là, c'est que pour les personnes qui veulent investir en Algérie, qui sont intéressées par une vie ou une carrière ou entreprendre en Algérie, n'écoutez pas ce qu'on vous raconte, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on entend. Il y a beaucoup de langues pessimistes. Qui parlent de l'impossibilité d'entreprendre en Algérie, c'est juste un prétexte pour justifier leur échec. Il y a énormément d'opportunités et entreprendre en Algérie, je trouve que c'est très simple. Voilà. Et voilà, c'est un peu le message que je voulais transmettre en parlant d'Algérie. Et c'est pas parce qu'on est franco-algérien qu'on connaît l'Algérie. Non, sur le plan professionnel, quand on arrive en Algérie, qu'on n'y a jamais travaillé, ni jamais rien fait, on connaît rien du tout. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une approche. En arrivant en Algérie, pour ceux qui veulent entreprendre en Algérie, c'est bah, j'arrive dans un pays qui est le Zimbabwe ou le Nicaragua, en fait. Je connais rien. Il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Il faut que je comprenne le marché. Et ensuite, il faut que je mette toutes les chances de mon côté pour réussir. Et au fait, moi, j'ai vu des cas, pour parler d'un cas concret, des Franco-Algériens qui ont ouvert une boulangerie de luxe. Avec des produits très bons, français, etc., qui valent 4-5 fois plus cher que les produits algériens, mais c'est justifié. Par contre, ils ont ouvert dans un quartier populaire. Donc, non, ça ne marchera nulle part dans le monde, ça. Donc, en fait, ensuite, ces gens-là, quand ils ferment, bah, ils disent, bah non, l'Algérie, c'est pas possible, des Algériens, machin, etc., etc. Bah non. Le problème, c'est pas l'Algérie, c'est pas les Algériens. Le problème, c'est ton projet n'est pas sérieux, en fait, tout simplement.
Milou, je vais te poser des petites questions pour terminer. Est-ce que tu
Ouais.
as une routine, des routines, une routine matinale, quotidienne, que tu suis?
Ouais, j'ai une routine quotidienne, mes jours se ressemblent énormément. D'accord. Est-ce que tu veux que je te parle de ma routine?
Ouais, pour voir un peu si tu as des éléments dans ta routine qui permettent de
Alors,
comprendre un petit peu comment tu fonctionnes.
ouais, alors moi je me lève le matin à l'heure de l'appel à la prière du matin. Je vais prier à la mosquée. Je rentre chez moi, je me détends un peu, je lis, etc. Donc c'est mon moment important du matin où je m'aère l'esprit. Bah après, bah je me douche, je prends mon petit déj et puis je vais au boulot. Et puis là, il se passe plein de trucs au boulot. Donc voilà. Jusqu'à 17h, et là je rentre chez moi, je passe du temps avec mes enfants. Je dîne et ensuite je vais dormir assez tôt pour me lever, pour me réveiller tôt. Donc c'est mes journées sont toutes les mêmes et c'est comme ça que c'est un peu mes repères.
Oui, ça paraît simple, mais les éléments, genre se coucher tôt, se lever tôt, aller à la mosquée, lire. Pour un équilibre sain, c'est super essentiel, ça, je trouve. C'est super important.
Ah oui, je ne pourrais pas vivre autrement, en fait.
Écoute, ça a été un grand plaisir de partager ton expérience et d'en apprendre plus sur ton métier, ton entreprise. Est-ce que tu as des dernières réflexions, des conseils que tu souhaiterais partager à propos des apprentissages que tu as eus et auxquels enfin, les auditeurs et moi pourrions bénéficier?
Bah, enfin, vraiment pour les gens qui ont envie de changer un peu d'air, de changer de pays, de changer de vie, etc. N'ayez pas peur, parce que ça va pas vous tuer. Et puis finalement, on arrive toujours à se relever, en fait, quoi qu'il arrive.
C'est quoi la phrase, la citation? Je crois que c'est mieux vaut vivre avec des remords que des regrets, qu'avec des regrets.
Non, en fait, le truc, c'est qu'honnêtement, bon, une petite réflexion un peu spirituelle, c'est que j'ai même pas 40 ans et je me rends compte à mon âge que la vie, en fait, est très courte, est très très courte. Je viens de perdre mon père il y a un an et c'est une des dernières phrases qu'il m'a dit, enfin, en discutant avec lui, c'est que la vie est vraiment très courte et que il se rappelle de ses 20 ans, quoi. Il se rappelle de ses 10 ans et c'est comme si c'était hier. Et en fait, quand on a ce recul par rapport à la vie, en fait, ça nous pousse à ne vraiment pas accorder d'importance enfin, en fait, le côté attention, faut pas que je prenne de risques et si et machin et tout, on arrive à l'oublier et ça nous donne la force de prendre des risques en fait et de vouloir vivre notre vie comme on le veut, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie, justement, au décès de mon père. Et ça m'a poussé à réfléchir différemment et à me dire, non, mais la vie est courte, profites-en, fais ce que tu veux et ne te focalise pas sur le côté, tiens, faut que j'achète une maison et machin, et mes enfants, et ci, et machin, etc. Et je trouve que ça donne une certaine force, au fait, qui te pousse à vouloir vivre ta vie comme t'aimerais la vivre, quoi. Et le reste passe au second plan.
Très profond et c'est très 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 juste. La vie va de plus en plus vite, plus on grandit et on vieillit, même si t'es encore jeune, hein, et plus le temps passe vite.
Ouais.
Dernière question, Miloud, est-ce que tu aurais des recommandations de livres qui toi t'ont marqué?
Je suis très attaché à notre religion et je lis pas mal de livres religieux. Alors le dernier livre religieux que j'ai lu, c'est un livre, c'était, il me semble, il y a une semaine ou deux, ouais, il y a 2 semaines, un truc comme ça. C'était un livre, en fait, qui explique, alors je sais pas comment le traduire en français, ça serait, ouais, en fait, c'est l'âme après la mort, d'accord? Et c'est un savant connu qui s'appelle Al-Uthaymeen, saoudien, voilà. Je lis pas que des livres de savants saoudiens, mais en fait voilà, c'est un livre en fait qui explique les différentes phases après la mort. Et en fait, c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois et que je me suis remis à lire assez souvent après. Encore une fois, c'est un événement qui m'a marqué, le décès de mon père l'année dernière, chez moi en plus. Donc ça m'a poussé à essayer de savoir exactement dans les détails qu'est-ce qui arrivait juste après la mort. Voilà. Et bien
Super.
évidemment, le livre par excellence que je conseillerais, c'est le Coran. C'est un peu une réponse un peu bateau pour un musulman, mais je pense que c'est un livre, en fait, vraiment à méditer sur chaque phrase, parce que c'est chaque phrase, en fait, une fois qu'elle est bien méditée, permet de changer une vie. D'accord? Et c'est pas une phrase bateau en tant que musulman, etc. C'est quand on se concentre bien sur chaque élément, bah, on se rend compte que chaque mot, chaque phrase, si elle est bien réfléchie, vraiment change toute une vie.
Le Coran, c'est le seul livre qu'on lira jamais assez et qu'on réfléchira jamais assez sur sa profondeur.
Parce qu'il a, tout simplement parce qu'il a une profondeur qui est inépuisable. Vraiment inépuisable et que en dehors d'être en fait c'est un livre historique, c'est un livre enfin c'est tout au fait, c'est vraiment tout. Et encore une fois, je sais que ça fait un peu bateau et que c'est des phrases qu'on a déjà entendues, mais vraiment moi ce que j'encourage chacun c'est en fait de se personnaliser le Coran, c'est-à-dire en le lisant voir comment est-ce que ça s'applique dans notre vie personnelle à chacun. Et on verra que, enfin, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que chez chaque personne, en fait, la lecture du Coran va générer des réflexions et des sentiments qui vont être différents en fonction de la vie de chacun. Et dans tous les cas, ça changera une vie ou la compréhension de la vie chez chaque personne selon ce qu'elle a vécu, selon sa façon de réfléchir, etc.
Très bien. Mais écoute, Miloud, je mettrai tout ça en description. Petite dernière question, comment faire pour si quelqu'un veut te suivre ou te poser une question sur LinkedIn?
Ouais, sur LinkedIn, je me connecte assez souvent à LinkedIn, donc Miloud Lamraoui, MILOUD, espace LAMRAOUI. Voilà, n'hésitez pas, j'ai un grand plaisir à répondre aux questions, bon, en général, mais surtout les questions qui pourraient faciliter un projet personnel en Algérie ou un projet personnel, professionnel, etc. Voilà, je me suis fixé un peu en arrivant ici comme mission d'essayer de faire gagner du temps à tous ceux qui veulent entreprendre parce que quand je suis arrivé ici, bah, j'avais pas de contact, j'ai dû me faire tout seul, j'ai dû connaître les bons fournisseurs, les erreurs à ne pas faire, etc., etc. Donc, c'est avec grand plaisir que je partagerai tout ça pour éviter de la perte de temps que j'ai connue moi en m'installant en Algérie.
Très bien, ça, je pense que ça va en aider plus d'un. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par ça. Et j'espère que ça va en encourager plus d'un à se lancer. Malgré le Miloud, je te souhaite toute la réussite pour ton entreprise et pour tes projets, Inch'Allah.
Merci, je te souhaite la même chose.
Merci beaucoup. Et je te dis pourquoi pas bientôt à Alger, si j'ai l'occasion de venir une fois que les frontières seront ouvertes. À bientôt, salam alaikum.
Alaykoum salam, Abdelrahman, merci beaucoup pour ton temps.
Et j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à ton entourage et à faire des invocations pour que ce podcast soit source de bien pour la Oumma. Amin. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.